Bonsoir, amis auditeurs, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Patrick Simon au micro. Alors, la question que nous allons traiter ce soir est la suivante. Faut-il défendre l'exception culturelle française? Faut-il nous protéger de l'invasion culturelle américaine? Et nous allons évoquer essentiellement un livre de Jean-François Revel, le regretté Jean-François Revel, de l'Académie française, l'obsession anti-américaine. Et mes deux invités sont Bruno Gollnisch, député, ancien député européen, ancien député de l'Assemblée nationale et du Rassemblement national, et Alain Laurent, philosophe, essayiste et directeur de collection aux Belles Lettres. Et si je vous ai invités tous les deux, c'est parce que vous avez tous les deux des points de vue très divergents sur ce sujet. Je suppose en effet, je ne fais que supposer, hein, que Bruno Gollnisch est plutôt défavorable à l'invasion, ce qu'il doit appeler l'invasion américaine, et qu'il est plutôt souverainiste. Et je suppose qu'Alain Laurent est plutôt libéral, puisqu'il a beaucoup écrit sur le libéralisme américain, et donc il ne doit pas être anti-américain. Alors, pour lancer notre débat, je voudrais vous lire un petit extrait du livre « L'obsession anti-américaine » de Jean-François Revel. Alors, voilà ce qu'il disait. « Imaginons que les rois de France, au XVIe siècle, au lieu d'inviter en France les peintres italiens, se soit dit « cette prépondérance de la peinture italienne est décidément insupportable. Laissons dehors ces peintres et leurs tableaux, ne les laissons pas entrer. » Fermez les guillemets. Le seul fruit de cette démarche castratrice aurait été de tarir la source d'un renouvellement de la peinture française. De même, entre 1880 et 1914, il y avait beaucoup plus de tableaux impressionnistes français dans les musées et chez les collectionneurs américains que dans les musées et chez les collectionneurs français. Malgré quoi, ou à cause de quoi, l'art américain a trouvé plus tard son originalité et a pu à son tour influencer le nôtre. Ce sont ces fécondations mutuelles qui, ces fécondations se moquent d'éventuels antagonismes politiques. Alors voilà donc le raisonnement de Jean-François Revel. Je m'adresse à Bruno Gollnisch d'abord. Est-ce que vous objectez, cher Bruno Gollnisch, à ce raisonnement?
Oui, j'objecte. J'objecte parce qu'il me semble, cher Patrick Simon, je voudrais dire avant toute chose que je suis très heureux de débattre avec vous, avec toi, puisque nous débattons ensemble depuis que nous avons 12 ans et que chez vos parents, dans le salon de vos parents, vous organisiez déjà des débats que vous avez enregistrés sur des cassettes magnétophoniques, malheureusement perdues pour la postérité. Dommage, c'est pas très grave.
Bon, pas fait... si on a été des magnifiques.
Vous êtes un ami de 64 ans.
Oui, c'est vrai qu'on était au lycée. Pas mal. On était au lycée ensemble. Hein.
Voilà, on était ensuite au lycée et à l'université ensemble. Bon, voilà. Ce n'est pas ce qui intéresse
mais
les auditeurs.
Mais pourtant, nous
auditeurs.
Ne sommes pas d'accord.
Et pourtant, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord sur l'essentiel, sur un certain nombre de valeurs.
Alors, présentez votre objection, Bruno Gollnisch. Ben,
mon objection, c'est que je ne pense pas que la culture américaine actuelle, qui n'est pas négligeable du tout, présente quand même le même attrait, la même diversité, la même munificence que celle de la peinture italienne que vous citiez, l'art italien sous la Renaissance. Je voudrais préciser les choses. Je ne suis pas hostile du tout au peuple américain, lequel a des qualités tout à fait remarquables, par ailleurs, d'accueil, de sympathie, de patriotisme, confiance dans le travail, l'émulation. Tout ça est extrêmement honorable. Mais je suis personnellement hostile à la vassalité envers les autorités de Washington. C'est pas tout à fait pareil. Et je pensais d'ailleurs, je ne vous cache pas, que notre débat allait surtout avoir trait à la question stricte politique et pas exclusivement culturelle, sur laquelle j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, sur le plan culturel, moi, je suis favorable aux échanges. Je ne m'y oppose pas du tout. Je pense simplement qu'il y a aujourd'hui une disparité, n'est-ce pas ? La langue anglaise est la langue maternelle de centaines de millions de personnes, plus aujourd'hui que la langue française. Et un film, une partition musicale, une vidéo quelconque, va trouver un débouché considérable, non seulement en Grande-Bretagne, mais en Angleterre, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande.
Tant mieux,
si c'est bon. Et même en Inde, tant mieux pour eux. Nous avons malheureusement un marché un peu plus limité. Je souhaiterais que ce marché fût un peu protégé dans le sens, je voudrais tout simplement, par exemple, que le service public se livre au même exercice que Radio Courtoisie, qui, tous les jours, de 13h30 à 14h, sauf erreur de ma part, nous gratifie d'un florilège de chansons françaises que l'on n'entend absolument plus, nulle part, et en tout cas pas sur les ondes de service public.
Bon, alors voilà. Nous avons entendu votre objection, et maintenant nous allons entendre le point de vue d'Alain Laurent.
Oui, alors mon point de vue est peut-être plus diversifié qu'on ne pourrait s'y attendre. Tout dépend, puisqu'il s'agit de culture, tout dépend de ce qu'on appelle culture. Pour ma part, évidemment, je suis un admirateur depuis toujours de la haute et grande culture américaine sur le plan littéraire, de Mark Twain jusqu'à Ayn Rand, en passant par Faulkner, Jack Kerouac, donc il y a une richesse culturelle américaine sur ce plan-là tout à fait considérable. Même chose d'ailleurs pour ce qui concerne, par exemple, ce qui est pratiquement une invention américaine quant à la production en série, pour le roman policier, pour le polar.
Ah oui.
Actuellement, je suis un lecteur assidu, par exemple, de Connelly. Et je ne vois pas tout à fait d'équivalent européen ou français, bien que les Scandinaves soient vraiment très forts dans ce domaine. On pourrait aussi parler du cinéma. Donc, s'il s'agit de là...
Une petite interruption. Ouais. Le cinéma américain a des chefs-d'œuvre. Je cite en particulier Aviator de Martin Scorsese et Attrape-moi si tu peux de Spielberg. Et puis, vous n'avez pas parlé de la musique, Alain, mais... je vous laisse continuer.
Ajoutons donc la musique, pour ce qui me concerne, c'est sans doute... Il y a toute la musique de cinéma américaine, qui est celle qui accompagne les films, qui est admirable, et puis évidemment, le jazz. Alors, je suis beaucoup plus circonspect.
Et alors, 1700 orchestre symphonique, des musées, des opéras, le Lincoln Center. Oui. Donc, ce qu'on sent quand même pas un pays primitif.
Oui, il n'y a pas de raison de l'imaginer, si on est un obsessionnel anti-américain et qu'on n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Donc, pour ce qui concerne ce qu'on peut appeler la culture cultivée, là, je suis intégralement pro-américain. En ce qui concerne la culture qu'on peut appeler à un moment donné la culture de masse, la culture au sens sociologique du terme, là, je suis, comme je le disais, beaucoup plus circonspect. Et plus le temps avance et plus on arrive à l'époque actuelle, et plus je considère, en effet, que sur le plan culturel, le fait que la culture américaine soit devenue pratiquement l'esclave de la tech, guidé par les algorithmes et les agents informationnels, pour moi, c'est je le dis carrément, une pure horreur. C'est de l'anticulture. Donc, ce qui se passe, c'est que, en l'espace de une ou deux décennies, quelque chose s'est passé aux États-Unis qui a considérablement altéré la culture américaine classique, qui ne subsiste pratiquement plus. Donc, tout dépend de quoi il est question, mais s'il est question de cette culture-là, je ne dirais pas... j'y suis pour le moins hostile, et je pense en effet que les Européens gagneraient à y faire barrage, mais je crains qu'ils ne soient trop tard.
Vous n'aimez pas les restaurants McDonald's? J'imagine que Bruno Gollnisch non plus.
Je ne les classe pas dans la culture. Pour moi, c'est une manière de vivre. J'ai une vision relativement élitiste et aristocratique de la culture.
Je comprends.
Et donc, il y a des manières de vivre, de se comporter tous les jours. Évidemment, comme j'ai été sociologue dans une autre vie, je connais fort bien ce qu'on appelle culture. J'ai suffisamment travaillé là-dessus avec mon ami Edgar Morin. Mais, en effet, tout de même, il faut faire la distinction. Et, par exemple, actuellement, à l'éducation nationale en France, c'est surtout de la nouvelle culture, celle qui fait si bon ménage avec le technocapitalisme, qu'il s'agit, et pas du tout de la culture classique. La plupart des élèves français, maintenant, n'ont jamais entendu parler des grands auteurs. Donc voilà où est le problème, selon moi. Dieu merci, aux États-Unis subsiste un certain nombre de champs extrêmement cultivés. Je n'y classerai pas, évidemment, le guide suprême de la Maison Blanche, qui est tout fier de n'ouvrir jamais un livre, puisque c'est par le livre, d'abord, que passe la culture.
Alors, je me vois confronté, finalement, à la même objection de la part de mes deux invités, donc je vais prendre la place d'un intervenant. Moi, je pense au contraire que la mondialisation, pas le mondialisme, hein, la mondialisation n'uniformise pas, elle diversifie. Et les restaurants McDonald's, par exemple, parce que j'ai cité ça, depuis qu'il y a les restaurants McDonald's, il n'y a jamais eu autant de restaurants, de cuisines étrangères que de nos jours. Il y a des sushis, des kebabs, des Tex-Mex, des canards à la pékinoise, des soupes thaï, etc. Autrement dit, la mondialisation, contrairement à ce qu'on dit, elle n'uniformise pas, elle diversifie, me semble-t-il. Alors, maintenant que j'ai lancé ce pavé, je vous laisse l'un comme l'autre vous jeter dessus. Bruno Gollnisch, qu'en pensez-vous?
J'ai l'impression, cher Patrick Simon, que vous êtes un petit peu effrayé par le rapprochement qui s'ébauche, oui, finalement, entre
le libéral et le nationaliste,
qui devait être, dans votre esprit, antagoniste, antagonistique, de Monsieur Alain Laurent et de moi-même. Écoutez, je diverge de vous quand même, parce que je pense que McDo, c'est quand même lié à ce qu'on appelle la malbouffe. Je dis pas que c'est,
mais non, c'est
pas
très bon,
je dis pas que c'est en soi, c'est mauvais, mais enfin, ouais, c'est quand même, vous voyez, je préfère le restaurant Sébillon où je viens.
Ah bah oui,
de,
ça c'est sûr que c'est pas le même prix, oui.
bon, c'est vrai qu'il y a un problème, de prix, et c'est vrai que après tout, la cuisine française devrait peut-être se réinventer en étant capable de proposer des plats qui soient conformes à nos traditions culinaires, à un prix tout à fait abordable par des gens qui n'ont pas nécessairement de gros moyens. Ceci étant dit, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la culture américaine. Moi, je suis un admirateur du peintre, par exemple, Andrew Wyeth, qui est classé parmi les peintres réalistes. Enfin bon, j'aime le jazz. Je vais parfois écouter du gospel. Tout ça fait partie de la culture américaine. Je reconnais qu'il y a de très bons films aux États-Unis. La question n'est pas en soi que les États-Unis, finalement, exportent leur culture, du fait quand même de l'avantage j'exprimais tout à l'heure, à savoir le vaste marché dont ils disposent, du fait que la langue anglo-saxonne est devenue une langue de communication, la langue vernaculaire, pratiquement à l'échelle mondiale. Le problème, c'est que je trouve que nos autorités, mais y compris les directeurs de l'audiovisuel, les producteurs, etc., ne défendent pas suffisamment la créativité française.
Alors vous êtes favorable aux aides au cinéma, par exemple, ou pas?
Oui, je suis relativement favorable aux aides au cinéma, à condition qu'elles n'aient pas le caractère idéologique qu'elles ont à l'heure actuelle. Alors, ce que je souhaiterais surtout, voyez, par exemple, j'ai suivi, c'est vous dire, pendant des années, parce que c'est interminable, Amour, gloire et beauté, feuilleton américain à la télévision française, qui, je crois, était présenté par le service public. Alors, je peux même vous chanter le jingle. Amour, gloire et beauté,
ah oui,
des mots qui font rêver. J'étais au Parlement européen, je dormais dans mon bureau, et à 8 heures du matin, j'avais Amour, gloire
comment
et beauté.
Comment vous dormez dans votre bureau, alors qu'on vous reproche de ne pas être là et d'avoir un emploi fictif?
Non, j'étais très, très assidu.
Très bien.
Oui, les documents officiels en attestent. On ne m'a jamais reproché mon manque d'assiduité. Bon, j'ai pratiquement raté aucune session plénière.
Donc, les aides au cinéma, vous êtes pour.
Donc, je trouve surtout qu'il y a un défaut de création française qui, dans un premier temps, devrait être soit aidée, soit protégée.
Bon, et alors,
je pense
Alain
aux
Laurent,
accords de Blair House.
Que pensez-vous des aides au cinéma?
Alors, je réponds là-dessus, puis je reviendrai sur le McDo.
D'accord.
Les aides au cinéma, j'y suis hostile, puisque malheureusement, nous vivons dans un pays où le cri qui s'élève tel une lamentation de malheureux, c'est « à l'aide, à l'aide, à l'aide ». Qui ne réclame pas des aides en France? Et je pense que les cinéastes, bon, sont à mettre sur le lot commun, eh bien, d'autres les ont précédés et qui ont trouvé les moyens de créer par eux-mêmes ou de façon coopérative avec d'autres. Et je ne vois pas ce que l'État vient faire là-dedans. Donc, j'y suis
aussi. Donc, vous avez deux points de vue entièrement
divergents. Avec le risque, oui, ce qui vient d'être illustré, le risque du copinage, et du copinage soit parfois idéologique, ou du copinage tout ça, simplement. Et il y a parfois des scandales dans la distribution, les attributions de l'aide. Je reviens au problème du McDo, parce que si on est très concret, on peut mesurer ce qui se passe. Dans les McDo, pendant jusqu'à peu de temps, parce que j'y suis allé aussi quand je ne pouvais pas faire autrement, il n'y avait pas d'hostilité de principe, les frites étaient absolument affreuses. C'était des frites industrielles, les mêmes qu'on soit à Paris, Los Angeles, Tokyo ou Buenos Aires. C'est la mondialisation industrialisée et uniformisée.
Donc vous n'étiez pas content, donc vous n'êtes pas obligé d'y retourner.
C'est ce que j'ai fait.
Ben voilà.
C'est ce que j'ai fait, j'ai pas été tenté.
Donc vous êtes libre, on ne vous
oblige
pas.
Parce que je suis un amoureux de la frite et de la frite belge.
N'est-ce pas, je comprends.
De la vraie frite.
Ouais. Or, qu'est-ce qu'ils voient sur la grande place de Bruxelles.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, peu, même dans certains McDo, c'est se plier à la nouvelle habitude que l'on a en France de privilégier les frites artisanales et les frites maison. Eh bien, l'artisanat de la frite maison, c'est quelque chose qui n'est jamais venu à l'idée des Américains, mais qu'ils apprécient. Autre exemple concret, les Américains découvrent la valeur et le goût gustatif incomparable de la baguette française. Lorsque les touristes américains viennent en France, ils font la queue et ils découvrent également le beurre français.
Ah, qui est délicieux.
Ils partent même avec du beurre. Je ne sais pas comment ils font pour le conserver jusqu'à l'arrivée. Mais si on prend les frites maison, la baguette et le beurre, le French butter, comme ça ils comprendront, eh bien on s'aperçoit que dans un domaine extrêmement concret, il y a des valeurs fortes à faire valoir en France contre l'industrialisation de la pseudo-gastronomie américaine.
Très bien. Alors je voudrais qu'on revienne maintenant à la question du cinéma, l'aide au cinéma, parce que Revel tient dans ce livre le raisonnement suivant. Quand il y avait... les Italiens se plaignent du fait que le cinéma italien n'existe plus ou est mort. Et justement, en ce moment, il y a des aides. Et quand il n'y avait pas d'aide, le cinéma italien, c'était Fellini, Visconti, Rossellini, De Sica, Risi, etc. On pourrait tenir le même raisonnement au sujet du cinéma français. Quand il n'y avait pas d'aide avant la guerre ou même après, il y avait des grands metteurs en scène qui n'y a plus trop maintenant, qu'il y a du copinage et qu'on fait des films par avance sur recette et sans spectateurs. D'ailleurs, on peut remarquer aussi que le système français d'aide, ça revient à ce que, c'est ce que Revel explique dans son livre, c'est le spectateur français qui va voir les films américains, qui finance le cinéma français. C'est pas le cinéma américain, dit-il. C'est quand même caractéristique, symptomatique, disons, de nos petits défauts.
Oui, mais vous avez prononcé un mot très important, c'est que ces aides, principalement, ce devraient être des avances sur recette. Par définition, dans le mot avance sur recette, il n'y a pas don gratuit et
absolument
perpétuel.
Voilà. Vous avez parfaitement raison.
Même si dans la pratique, ça aboutit à ça. Ça aboutit à cela. Bon, donc moi, je ne trouve pas, nous avons un point de désaccord, mais il n'est pas fondamental. Mm-hmm. Moi, je ne trouve pas anormal qu'il y ait de la part du ministère de la Culture, encore une fois, à condition que ce ne soit pas distribué de façon purement idéologique, des avances sur recettes en souhaitant que ces avances soient remboursées. Voilà. Et donc, à ce moment-là,
s'il n'y a pas de spectateurs, l'avance, elle devrait être remboursée. Or, ce n'est jamais le cas.
Bah, écoutez, les producteurs ne sont pas capables de rembourser les avances sur quoi ils se sont engagés, ben, il ne faut plus leur consentir d'avance.
Tout à fait. Là, on est bien d'accord au moins là-dessus. Alors, je voudrais vous soumettre une réflexion plus générale de Jean-François Revel dans son livre. Je vous la cite parce qu'elle est symptomatique, elle remonte à l'Antiquité grecque. Voilà ce qu'il dit. L'idée qu'une culture préserve son originalité en se barricadant contre les influences étrangères est une vieille illusion qui a toujours donné un résultat contraire à celui qui était recherché. On ne peut pas être différent tout seul. C'est la libre circulation des œuvres et des talents qui permet à chaque culture de se perpétuer tout en se renouvelant. L'isolement, écrit Jean-François Revel, n'engendre que la stérilité. La démonstration remonte au vieux parallélisme entre Sparte et Sparte. Vous voyez, hein, c'est Athènes, cité ouverte, qui fut le prolifique lieu de création dans les lettres et les arts, dans la philosophie, dans les mathématiques, la science politique, l'histoire. Sparte, défendant jalousement son exception, réalisa ce tour de force d'être l'unique cité grecque qui ne produisit aucun poète, aucun orateur, aucun penseur, aucun architecte. Elle obtient bien sa diversité, mais ce fut celle du néant. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation générale, Alain Laurent ?
Oui, mais enfin, actuellement, je ne vois plus trop le problème. Qui, par exemple, défendrait actuellement en France le fait qu'il y ait des barrières douanières protectrices de quelque chose qui, en plus, existe de moins en moins. La culture française. Ce que la culture en France peut puiser d'original dans son fond culturel classique. Donc, c'est quelque chose qui est complètement raboté, encore une fois, avec tout le délire qui est lié à l'informatisation, maintenant à l'intelligence artificielle.
Mais il y en a peut-être qui sont favorables à des barrières, à des frontières, non, Bruno Gollnisch? Des frontières en faveur de l'exception culturelle française, vous êtes pour ou pas ?
Non, des barrières, des frontières, non. Non, encore une fois, mais je suis favorable à une préférence nationale, c'est-à-dire qu'au moins dans nos médias, on privilégie la création française par rapport à des importations étrangères qui sont assez peu coûteuses, finalement, parce que quand le produit arrive sur le marché, il a déjà trouvé sa propre rentabilité sur le marché anglo-saxon, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est considérable. Bon, Et donc, il est difficile, dans ces conditions, de maintenir une création française.
La francophonie, mais c'est quand même important. Il y a
c'est important.
Plus de 300 millions de francophones, donc l'Afrique de l'Ouest.
Je recevais tout récemment, dans le cadre de la Société française de géopolitique, monsieur l'ambassadeur Albert Salon, qui est un grand défenseur de la francophonie. Effectivement, il faut défendre la francophonie. Mais je suis assez d'accord avec vous en ce sens que... Je trouvais quand même qu'un jour au Parlement européen, un paradoxe absolument extraordinaire, c'était au moment de la signature des accords dits de Blair House, qui ont été des accords libre-échangistes négociés dans le dos, en quelque sorte, du peuple et des institutions françaises, et à la révélation desquels nous avons, mon ami Carl Lang en particulier, a joué un assez grand rôle. Alors, ces fameux accords de Blair House qui ont effrayé la chronique et qui ont fait l'objet d'un entretien entre Jean-Marie Le Pen et Édouard Balladur, où j'étais présent, d'ailleurs.
Ah oui. Bon. Ces accords consistaient en quoi, exactement ?
Je ne peux pas vous redonner le détail de mémoire, mais c'était effectivement... la libéralisation d'un certain nombre de marchés, et notamment tout ce qui est sur le plan culturel. Et la fin de toute barrière ou protection culturelle. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'à ce moment-là, nous avons vu arriver au Parlement européen, pour être auditionné par la commission compétente, tous les auteurs français... les producteurs, les artistes de théâtre, par exemple Miu Miu au bras de Depardieu, vous voyez, entre autres, venant défendre l'exception culturelle française. Alors c'était d'autant plus amusant et paradoxal que ces gens-là n'avaient pas de mots en règle générale. Je ne dis pas ça pour Miu Miu ou pour Depardieu, mais en règle générale, n'avaient pas de mots assez sévères pour combattre les propositions du Front National tendant à l'instauration de la préférence nationale dans au moins un certain nombre de domaines économiques ou sociaux en particulier. La préférence nationale, c'était abominable, c'était raciste, c'était discriminatoire, c'était très mal, sauf quand il s'agissait...
De même.
Voilà. Bon. Et ça, je dois dire, ça a été pour moi un grand moment d'hilarité.
Je vois, je comprends. Mais vous savez que le grand écrivain péruvien Mario Vargas Llosa dit un peu la même chose sur l'hispanité, enfin les hispanophones. Voilà ce qu'il dit toujours dans le livre de Revel. Il y a 50 ans à peine, écrit Vargas Llosa, nous autres hispanophones étions une communauté refermée sur elle-même qui s'exposait fort peu en dehors de ses frontières linguistiques. Aujourd'hui, en revanche, la langue espagnole fait preuve d'une vitalité croissante et tend à gagner des têtes de pont et des positions parfois fortes sur les 5 continents. Le fait, alors voilà la phrase intéressante qui ne va peut-être pas vous plaire, Bruno, le fait que les États-Unis comptent aujourd'hui 20 à 30 millions d'hispanophones explique... que les deux candidats actuels à la présidence, ils parlent en 2000, le gouverneur Bush et le vice-président Gore, utilisent aussi l'espagnol dans leurs discours électoraux. Cet exemple montre que la mondialisation, une fois de plus, fait progresser la diversité culturelle, y compris aux États-Unis.
Alors là, je crois que c'est...
Moi, j'en profite pour souligner quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Mais les citations, là, ils font explicitement allusion. C'est « il n'y a rien de culturel qui vaille s'il n'y a pas d'abord une langue qui maintienne sa structure, sa richesse lexicale, etc. »
Comme l'espagnol.
Je l'ignore, je ne sais pas. Mais si je prends l'exemple de la langue française, elle est actuellement en plein naufrage. Par conséquent, tout ce que nous racontons risque d'être nul.
Quand vous dites en plein naufrage, je veux dire que les gens la parlent de moins en moins bien.
Absolument. La variété, la richesse du vocabulaire est en train de s'effondrer. Je vais vous citer, même dans les hautes sphères médiatico-intellectuelles et politiques, quelques exemples qui m'ont concerné. Par exemple, j'ai entendu parler à plusieurs reprises, il n'y a pas longtemps, du prolongement des centrales nucléaires. au lieu de la prolongation.
Bien sûr.
Mmh. Un auteur dont je ne citerai pas le nom, mais qui a été à la tête du Centre national des lettres en France, et qu'on voit sans cesse d'ailleurs sur toutes les chaînes info, dans un livre, donc c'est à l'écrit, a confondu isolation et isolement. Il parle de l'isolation du peuple français. Ça veut dire qu'il est congelé, littéralement. Ce qui est d'une absurdité tout à fait monstrueuse. Nombre de politiques, maintenant, confondent, par exemple, le fait d'être oppressé et opprimé.
Oui, opprimé, absolument.
Alors, on parle de gens qui sont oppressés politiquement. Ils sont en train d'étouffer, sans doute. Oui. Quand on en est là, que dans les hautes sphères, soi-disant cultivées, on massacre la langue française, c'est-à-dire on a affaire à des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit, vraiment, c'est la nullité absolue. Comment voulez-vous que la culture, quelle qu'elle soit, prospère en France lorsqu'on en est là et qu'on entend, par exemple, une présentatrice de bulletin météo à la télévision dire que telle ou telle dépression va progresser dans la semaine, bon an, mal an. Bon an, mal an, ça veut dire d'un an sur l'autre. C'est le langage des viticulteurs. Une année, bonne récolte, l'année suivante. Mais progresser bon an, mal an pendant une semaine, mais c'est une monstruosité lexicale. Mais ça veut dire qu'elles ne comprennent pas ce qu'elle dit.
Oui. Et elle aurait dû dire vaille que vaille.
Il faut la corriger. Tant bien que mal, etc. Mais elle n'a pas la richesse lexicale qui convient et elle raconte n'importe quoi. Mais elle est loin d'être le seul.
Oui. Mais alors, ce même phénomène se produit aussi en anglais, Bruno Gollivou.
Oui. Mais c'est à cause, sans doute, de la tech américaine.
Oh, c'est bien avant, Jacques.
Non. Les phénomènes dont je viens de parler, le désastre linguistique dans sa variété et dans sa rigueur lexicale, il est récent. Je ne le remarquais pas il y a encore une dizaine d'années.
Mais Bruno Gollnisch.
C'est concomitant avec l'anglicisation générale, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la vraie culture anglo-saxonne.
Oui.
L'anglais est en fait une langue beaucoup plus complexe qu'on ne le dit, sujette à d'infinies nuances, également dépendant du niveau social et culturel du locuteur, etc. Mais il a une espèce de pidgin, une espèce d'anglais basique, a envahi complètement, mais ça c'est notre espace culturel, mais ça c'est notre faute. Je n'incrimine pas les États-Unis ni la Grande-Bretagne.
Mais
je dis, c'est notre faute. Par exemple, nous avions une loi qui me paraît malgré tout de bon sens. C'est une loi antilibérale. Patrick, vous serez donc en désaccord avec elle sur ce point. La loi Toubon.
Bon, la loi Allgood.
qui imposait que l'on n'utilisât que le français dans la publicité à la télévision. Elle est totalement contournée de partout. Alors, il y a quelquefois des anglicismes un peu amusants et bénins. Je pense, comme j'ai fait beaucoup de politique, j'ai eu beaucoup d'ennemis, mais j'ai eu quand même pas mal de partisans, et même, on peut dire, un fan club, de braves gens qui, à l'issue d'un meeting quelconque, me disaient « Ah, monsieur Gollnisch, on vous supporte ». Alors, je rectifiais toujours. Je dis, détrompez-vous, ma femme me supporte, mais vous me soutenez, c'est pas pareil.
Voilà,
mais il y a bien pire. Aujourd'hui, écoutez, dans ma paroisse, dimanche dernier, il y a les évêques de France ont lancé une nouvelle politique d'apostolat des laïcs dans leurs communes respectives. Bon, auxquelles nous sommes pas tenus, mais incités à adhérer, à participer. Alors ça s'intitule, ce programme, New Pastoral.
Ah ben oui, ça y est, de plus en plus le
franglais. New pastoral. Et c'est la publicité automobile. Dépêchez-vous, ce sont les Renault Days.
Oui, mais vous avez également les Dutch Days. Quality. Pour les Mercedes.
Ah oui.
Ou le Poltrone et Sofa, c'est en italien.
C'est en italien, mais c'est traduit. Aussitôt.
Pas à la fin. Pas à la fin.
Et après, vous avez quelqu'un qui le redit en français.
Enfin, moi, je le fais partie de ceux qui considèrent l'italien comme la più bella lingua del mondo.
Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous pour la sonorité, en tout cas.
C'est pour ça que Mozart faisait ses opéras en italien alors qu'il était allemand, enfin autrichien.
Oui, oui.
Et ça prouve que c'est bien une belle langue.
Absolument, absolument.
Enfin, nous éloignons de notre sujet.
Mais quand même, c'est vraiment un problème, cette espèce d'anglais basique
parce que,
contre lequel les Canadiens français, notre ami Bock-Côté que nous venons de croiser, ont lutté et continuent de lutter avec
ardeur. Une très grande créativité.
Oui, absolument.
Moi, je suis émerveillé, je vais souvent au Québec et dans le Nouveau-Brunswick, dans toutes les provinces francophones canadiennes, et le fait qu'un ferry boat se dise traversier.
Ah, je ne savais même pas.
Merveille. Ah, il y a plein de mots comme ça. Là-bas, vous ne voyez jamais un panneau stop sur les routes. C'est arrêt.
Ah oui. Ah oui.
Ah oui. Il faut voyager au Québec pour apprécier la richesse de la langue française traditionnelle.
Oui, oui, oui.
Alors, il nous reste un petit peu de temps et on pourrait peut-être aborder la politique plus nettement.
Oui.
Alors, moi, je voulais vous dire, jetant un pavé dans la mare...
Ça ne m'étonne pas de vous.
Oui. Les États-Unis nous ont déjà sauvés trois fois.
Oui.
Une première fois à la fin de la Première Guerre mondiale,
deuxième en nous libérant de la Première Guerre mondiale.
Bon, admettons. Mais alors, au moins une fois à la Deuxième Guerre mondiale, où ils nous ont libérés des nazis.
Oui.
Je rappelle d'ailleurs, sur cette antenne, que nazi, ça veut dire nationaux-socialistes.
Oui.
Et que le parti nazi de Hitler était un parti socialiste.
Absolument.
Réservé aux nationaux.
Mais nationalistes aussi.
Et nationalistes aussi.
Absolument.
Alors, ils nous ont sauvés une troisième fois, les Américains, en évitant l'invasion de l'Europe occidentale par l'Union soviétique, grâce à leurs forces militaires. S'il n'y avait pas eu ça, nous serions sans doute en train de parler... russe.
Très belle langue.
Belle langue, absolument. Nous devrions donc leur manifester un peu plus de reconnaissance. C'est pour ça que je vous dis, Bruno Gollnisch, ne seriez-vous pas un peu ingrat?
Ah, écoutez, d'abord, je pourrais vous parler de la bataille de la Chesapeake, Lafayette nous voilà, et de l'aide que nous avons apportée à l'indépendance américaine.
Ils nous ont rendu l'appareil.
Voilà. Donc, mais je reconnais tout à fait le sacrifice. Alors, sous la Première Guerre mondiale, ça a été vraiment tout à fait à la fin. C'était arrivé après l'échec. Ah, même les premiers soldats américains tués, je crois que c'est même 1918, et plutôt après l'échec de la dernière offensive allemande. Mais je ne veux pas minimiser. La Deuxième Guerre mondiale, vous avez raison. Après, quand même, Pearl Harbor. Enfin, deux ans après... l'entrée en guerre de Hitler contre la Pologne. Bon, tout ça est vrai. Je reprends un peu le mot de Kissinger. Par ailleurs, vous savez, Kissinger disait « Il est dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais il est généralement mortel d'être leur allié. » Voilà, c'est bon. Et comme l'ont appris beaucoup à leurs dépens. Je pense en particulier au gouvernement du Sud-Vietnam qui a été liquidé.
Ah bah,
avec avec la complicité de la CIA.
Oui, enfin, Nixon, elle a quand même fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de protéger les Sud-Vietnamiens. Et c'est parce que le Congrès démocrate de 1972 lui a refusé les crédits qu'il n'a pas pu continuer.
C'est vrai. Non, mais tout cela est vrai. Le problème, simplement, je ne suis pas hostile au peuple américain. J'ai de la reconnaissance, de la gratitude envers le peuple américain. Le problème, c'est de savoir, devons-nous rester dans la situation qui a été la nôtre, pratiquement, et qui est celle de beaucoup de pays européens, je pense en particulier à la Pologne, par exemple, de situation de quasi-vassalité à l'égard des États-Unis d'Amérique. Je vais vous donner un exemple très simple, mais très symptomatique. J'ai fait mon service militaire un peu prolongé comme jeune officier de marine. Mon premier embarquement, c'était sur le navire d'essai des missiles Henri Poincaré. Bon, et je faisais fonction d'être de camp d'amiral parce que j'étais censé baragouiner portugais et que nous allions aux Açores.
Portugais.
Et voilà, territoire portugais. Et c'est pour ça que j'ai été dépêché sur ce navire. Et pourquoi allait-il aux Açores? Eh bien, il allait aux Açores pour assurer, grâce à ces appareillages très sophistiqués de communication, les communications nécessaires à la rencontre au sommet entre le président américain Nixon et le président français Pompidou. C'était l'époque heureuse où, quand le président américain et le président français se rencontraient, mon cher, chacun faisait la moitié
du parcours.
Du parcours. Une fois aux Antilles, une fois aux Açores, précisément, une fois en Islande, etc. Aujourd'hui, on va prêter l'hommage vassalique à Washington. Et alors, si on est reçu à Camp David ou à Mar-a-Lago, alors là, c'est l'apothéose. Moi, je crois que nous devons avoir une politique indépendante à l'égard des États-Unis, parce que quiconque a du pouvoir est tenté d'en abuser. Et depuis la chute de l'Union soviétique, dont je me réjouis, les États-Unis devenus pratiquement unique superpuissance, sauf qu'ils sont aujourd'hui concurrencés par la Chine, ont tendance à abuser très nettement de leur pouvoir.
Enfin, les Polonais, ils sont quand même bien contents d'avoir les États-Unis et plus être les vassaux de l'Union soviétique.
Eh bien, ils ont tort, parce que les États-Unis, non, ce sont les États-Unis qui les l'ont livré à l'Union soviétique. C'est Roosevelt qui les a livrés à Staline.
Ah oui, Roosevelt, démocrate.
Les États-Unis n'ont rien fait pour les libérer.
La parole est à Alain Laurent.
Bien sûr.
Je n'ai pas tout à fait ce point de vue. Alors déjà, pour les Européens, peut-être moins la France à cause de Charles de Gaulle, eh bien, c'est une vassalité volontaire. Il faut se rappeler tout de même le titre de l'ouvrage de Labossi, de la servitude volontaire. La servitude peut être politique et collective, et personne n'a contraint les autres pays européens à ne jamais chercher à avoir une arme nucléaire nationale. C'est eux qui ont abandonné leur autonomie.
Tout à fait.
Maintenant, sur un autre plan, moi, je ne confonds pas les États-Unis actuels dominés par le mouvement MAGA et l'hystérie pathologique de Trump. Il y a une dizaine d'années, quand il y a eu les élections présidentielles, j'aurais souhaité que le candidat républicain, dont j'étais évidemment le plus heureux, soit McCain. McCain, qui était un grand héros militaire américain, et que l'immonde Trump a calomnié. Ce qui est arrivé à McCain, il était pilote de chasse.
Oui, c'était un loser,
Oui, il a dit que c'était un loser. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un bâtiment militaire de sa vie et qui qualifie de loser un héros national militaire américain, pour moi, c'est vraiment l'abomination de la désolation. Il y a un autre point...
Mais McCain a été candidat au présidentiel en 2008 contre Obama. Il a perdu.
Et c'était lui, il aurait pu être... Alors je veux dire que la ligne qu'il incarne et qui était fidèle à celle de Reagan, pour lequel j'ai toujours eu une très grande admiration, eh bien, aurait évité bien des déboires actuels et en effet le délire du mouvement MAGA. Alors, cela étant, il faut que je fasse l'effort de ne pas identifier ce que sont en train de devenir, malheureusement, les États-Unis actuellement, de s'isoler, etc. Et mon diagnostic, c'est que non seulement les États-Unis actuellement de Trump trahissent leurs alliés, n'est-ce pas ? Ils ont trahi les Ukrainiens, etc. Mais surtout, le pire, c'est que le mouvement MAGA et Trump trahissent la tradition américaine. Voyez. Et autant celle-ci était tout à fait ouverte, libérale, etc., à l'époque classique, jusqu'il y a une dizaine d'années, quels que soient les présidents, avec parfois de malheureux excès du point de vue de la gauchisation, ça a commencé à l'époque de Roosevelt, et Obama n'avait rien fait pour que ça s'améliore. Oui. Évidemment, il y a un problème, c'est de se demander qu'est-ce qui a bien pu faire que les États-Unis actuels se dotent d'un président grossier, grotesque, inculte, hystérique, qui pense qu'à insulter les autres avec l'approbation.
Vous exagérez,
Non. En tout cas, c'est ce que je pense.
Oui, moi, ce n'est pas ce que je pense du tout.
Oui. Alors, et qu'est-ce qui a pu se passer ? Alors, évidemment, on peut mettre en cause tout de même tout ce que consomme une majorité maintenant d'Américains dans le domaine des drogues diverses. Le fait que la fameuse mondialisation a tellement détruit d'emplois industriels aux États-Unis qu'un tas d'Américains sont obligés de survivre comme ils peuvent. Et en ce moment-là, ils se remettent à un sauveur suprême. Donc, il y a une catastrophe actuellement aux États-Unis. J'espère qu'elle commencera à s'atténuer aux élections de mi-mandat, mid-terms en anglais. D'accord, on profite.
Moi, je ne l'espère pas du tout. Alors, mais bon, je donne Bruno Gollnisch.
Cher monsieur Laurent, vous accablez Donald Trump et par certains égards, je rejoins vos critiques. Moi, je crois que ce qui a favorisé son élection, c'est aussi et beaucoup le rejet du de la culture woke imposée au peuple américain. Bon, mais cela étant dit, les prétentions impérialistes et insupportables des États-Unis, ça ne date pas de Trump. C'est bien antérieur. Si vous prenez, par exemple, la prétention insupportable des États-Unis à imposer l'universalité des sanctions économiques qu'ils décident, qui consiste, par exemple, à affamer Cuba. Je déteste le régime cubain, qui est un régime communiste, mais enfin, je suis attaché au principe élémentaire du droit international de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, et je me demande si vraiment Cuba ne représente aucune menace aujourd'hui, depuis 1962, depuis l'échec de l'installation de missiles sur le territoire de Cuba. Cuba, encore une fois, dont je déteste le régime, ne représente aucune menace pour les États-Unis. De quel droit les États-Unis affament-ils sciemment cette population ?
Parce que c'est un régime dictatorial, un régime totalitaire et parce qu'il faut l'abattre.
Je vais ajouter une chose.
Mais ce n'est pas en affamant la population qu'on abat le régime.
Éternellement reconnaissant aux États-Unis de s'être mêlé de ce qui se passait dans certains autres pays, à l'époque de la Voice of America, qui soutenait le moral des malheureux russes massacrés par le stalinisme. Alors à ce moment-là, fallait dire, écoutez, chers soviétiques, chers communistes, liquidez tout ce que vous voulez, massacrez 20 millions de personnes, il n'y a aucun problème, on ne va surtout pas s'en mêler.
Oui, sauf que la Voice of America a poussé, par exemple, les Hongrois à s'insurger contre les soviétiques et que le gouvernement des États-Unis les a laissés se faire massacrer en 1956, trop occupés à éliminer l'influence de la Grande-Bretagne et de la France sur le canal de Suez.
Ils ont quand même réussi
ça n'annule pas du tout j'ai dit sur la nécessité morale de se mêler de ce qui se passe dans les autres pays lorsqu'ils massacrent.
Il en est de même avec l'Iran actuellement.
La nécessité morale, je vous l'accorde, ça consiste à prendre la parole. Qu'il y ait eu une contre-propagande montrant les effets néfastes du communisme, ça je veux bien l'admettre, mais je ne crois pas qu'il y ait de nécessité morale à affamer une population comme ils ont affamé Cuba, comme ils ont affamé l'Irak, avant, sous un prétexte aussi fallacieux que les précédents, d'écraser ce pays les résultats que nous connaissons.
Nous arrivons au terme de cette émission. Je suis très content, je vois que vous n'êtes pas d'accord sur peu de choses.
La tension remonte.
C'est parfait, les auditeurs vont certainement apprécier. Moi, vous l'avez compris, je suis plutôt du côté d'Alain Leroc que celui de Bruno Gollnisch. Ah, et je voudrais qu'on termine.
J'espérais que vous fussiez entre l'enclume et le marteau, ce qui aurait permis
de
vous laminer.
Le subjonctif, c'est très bien, Bruno. Alors, je voudrais qu'on termine sur un petit point, la mondialisation à l'américaine, disons la mondialisation capitaliste, a eu, je crois, beaucoup d'effets bénéfiques. Je voudrais rappeler que la production mondiale, grâce à elle, a été multipliée par 6 pendant ces dernières décennies, que les exportations...
Pas en Europe, hein.
Mais si, les exportations françaises ont beaucoup augmenté et la France est un grand pays d'exportation. Tout le monde l'ignore, mais nous exportons beaucoup de sidérurgie, nous exportons beaucoup d'aviation, de nucléaire civil, de luxe, de haute couture. Et tout ça, on n'en parle
mais
pas.
Beaucoup moins on que nous l'importons, malheureusement, avec un déficit de la balance commerciale.
Ça, c'est à cause de la politique désastreuse d'Emmanuel Macron.
C'est vrai, c'est vrai.
On produit encore les constructions de paquebots à Saint-Nazaire, c'est magnifique. Bon, alors, il me semble que
Et même de bateaux à voile.
Oui, tout à fait. On parle jamais de ce qui va bien dans ce pays et on se lamente. Donc, je le. Bon, et puis il y a eu. Alors là, c'est plutôt mondial. Il y a eu des progrès de la médecine considérables. On vit de plus en plus vieux. Grâce,
Pour nous, dites-donc. Ben,
heureusement pour nous, je suis bien d'accord. Il y a une baisse de la mortalité infantile dans les pays sous-développés. Vous avez eu des gens comme Muhammad Yunus, le prix Nobel de la paix, qui est premier ministre du Bangladesh maintenant, et qui a sorti des milliers de femmes illettrées du sous-développement, de la misère, de la pauvreté. Enfin bref, il y a eu énormément d'améliorations grâce à la mondialisation à l'américaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, un petit mot de conclusion, car il ne reste que quelques minutes. Bruno Gollnisch.
Non, mais ça, ce n'est pas spécifiquement le fait des États-Unis.
Non, ce n'est pas que États-Unis.
Et moi, j'aimerais bien que les règles soient égales pour tous. Je pense, par exemple, à cette invraisemblable amende de 7 milliards d'euros, je crois, 9 milliards de dollars, je ne sais plus exactement. C'est une somme absolument faramineuse que les Américains, via leur système judiciaire, ont imposé à BNP Paribas au motif qu'une filiale suisse de BNP Paribas continuait de commercer avec l'Iran. Et toujours, on revient à la prétention universaliste à imposer leurs sanctions. Et ceci sans qu'il y ait un mot de protestation des autorités françaises.
La BNP a transigé là-dessus. Hein.
Elle ne
pouvait pas faire autrement.
Vous avez le canon sur la tempe et que vous n'êtes pas défendu par votre état d'origine...
Oui. Alors, bon. Alain Laurent, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Ça devrait vous plaire, la mondialisation capitaliste.
Pas tant que ça, peut-être de moins en moins, puisqu'il y a quelque chose qui a échappé même à mes amis économistes libéraux depuis pas mal de décennies, sinon de siècles, c'est qu'elle crée des dépendances. Et ces dépendances font que, s'il n'y a pas une paix bienheureuse qui règne sur toute la planète, eh bien, on se trouve dans des situations où, brusquement, les chaînes d'approvisionnement sont rompues et on se trouve devant une pénurie, une absence de biens. Et par conséquent, il y a des remèdes à apporter. C'est quelque chose qui a été conçu sans doute de façon trop idéologique et abstraite.
Non, le seul qui trouve grâce à vos yeux, c'est le président argentin, Milei, non ?
Dans ce domaine-là, je ne sais pas quel est son credo. Moi, je constate qu'avec les crises, au fond, ce sont les fameux dividendes de la paix. On a cru que le commerce créerait paix bienheureuse éternelle, ce qui est totalement et empiriquement faux. Et par conséquent, dès qu'il y a la moindre complication, ça peut être une épidémie, ça peut être une guerre, ça peut être un blocus quelconque, eh bien, la mondialisation s'effondre.
Bien, eh bien, nous terminerons sur cette conviction pessimiste que vient de nous donner Alain Laurent.
Contraire à votre sens
réaliste. Voilà, réaliste. Et donc, on laissera les auditeurs juger. Merci, messieurs, pour cette très bonne contribution de chacun.
Merci.
Je reprends la parole pour faire une petite transition. Alors, vous avez entendu, moi qui suis plutôt pour Donald Trump, vous avez entendu une avalanche de critiques, aussi bien d'Alain Laurent que de Bruno Gollnisch, contre Trump. Donc, j'apporte un dernier point au débat en vous donnant, amis auditeurs, un exemple très actuel. Vous savez qu'il y a des navires qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Et tout récemment, la CMA-CGM, une société française, un des plus grands transporteurs maritimes français, du monde, je veux dire, a réussi à avoir deux de ces porte-conteneurs qui étaient bloqués dans le détroit d'Ormuz et qui ont pu franchir le détroit sans encombre. Et je vous le demande, grâce à qui? Eh bien, c'est grâce aux interventions américaines, ça, c'est l'opération Project Freedom. Donald Trump a dit « on agit et on ne nous remercie jamais ». Eh bien là, on pourrait les remercier, puisque c'est grâce aux Américains que ces deux porte-conteneurs de la CMA-CGM ont pu passer le détroit. Hein, j'en profite pour vous lire la dépêche du Marin, hein. Il y a eu un porte-conteneur de la CMA-CGM sous pavillon maltais qui a été attaqué par l'Iran. Comme d'habitude, les méchants gardien de la Révolution, et le deuxième porte-conteneur de cette même compagnie est passé sans encombre à passer le détroit grâce à cette opération Freedom, Project Freedom, qui a réussi à faire passer aussi des navires sous pavillon américain et sous bien d'autres pavillons. Il faut rappeler que le petit porte-conteneur San Antonio avait été frappé par l'Iran, toujours ces méchants Iraniens, même dans le corridor sécurisé par les États-Unis. Et puis le deuxième est passé, a fait passer, cette fois-ci sans dommage, un second navire, ce qui est quand même encourageant. Malgré les tirs de missiles iraniens, ils sont passés grâce à la marine américaine. Alors, j'ai reçu plusieurs messages, je vous en lis un. J'en reçois les amitiés de cet auditeur qui nous dit « Avant de décider si vous êtes pour ou contre les États-Unis, je vous conseille de lire un livre très instructif d'Éric Branca, L'ami américain. » Effectivement, dans une émission de Richard de Chaise, Éric Branca en parlait. Et donc là, vous aurez, si vous comparez le livre de Branca, L'ami américain, au livre de Jean-François Revel, L'obsession anti-américaine, vous aurez comme ça un peu les deux points de vue. Et je pense que vous pourrez facilement vous faire une opinion. Et alors, je vais vous abandonner, puisque c'est l'heure a sonné du feuilleton. Vous entendez régulièrement les aventures de Marie-Josette Liégeois. Et là, vous allez entendre, vous allez écouter, si vous voulez, le troisième épisode de ce feuilleton sur Marie-Josette Liégeois. Alors ça, on change un peu de style. C'est plus amusant, c'est plus policier, voilà, il en faut pour tous les goûts, et donc je vous laisse avec ce feuilleton.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, histoire à la loupe. Vous écoutez les histoires à la loupe sur Radio Courtoisie. Voici la troisième partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Le doute fut définitivement levé lorsque Marie-Jo avoua à Khalil, après 10 ans de fréquentation d'abord tumultueuse dans le lointain passé, puis 15 ans de mariage tranquille, qu'elle avait le projet de renouer avec l'hôtel de la tortue. Contre toute attente, Khalil Mahmoud ne s'offusqua pas de cette intention malsaine, car il n'ignorait rien, ni de la platitude conformiste de leur nouvelle vie bourgeoise, ni des aspirations de son épouse à des initiatives sortant de l'ordinaire, ni de l'indéboulonnable fiabilité dont toujours elle avait fait preuve. Lui aussi était conscient qu'il ne fallait pas s'enliser dans la routine peinarde du quotidien et attendait du nouveau. En somme, après 25 ans, il ne voyait plus les choses de la même façon qu'au début. Aussi, quand elle aborda le sujet délicat de l'hôtel de la tortue, il n'émit aucune objection et manifesta plutôt une vive curiosité.
« Dis-le franchement, madame, ça t'amuse ou ça t'excite ?»«
Disons que cela me réveillera, parce que je pourrai vérifier des choses. »«
Qu'est-ce que tu veux dire ? »
« Quelle chose tu veux vérifier? D'abord, si j'ai toujours du succès auprès des hommes. Ou si la beauté est un inconvénient.
Qu'est-ce que tu me racontes là?
La beauté, c'est un immense avantage. Pas toujours. Maintenant que j'ai 56 ans, j'ai remarqué que j'en intimidais plus d'un. Comme j'ai l'air d'une star, ils n'osent pas m'aborder.
Et ça t'ennuie?
Un peu. Il y a quelques chenots qui auraient pu, mais ils n'osent pas.
Tandis que si tu fais le trottoir, ils vont plus se gêner.
Exactement. Surtout quand ils me feront me palader dans la rue, en mini-jupe, hyper mini, et en décolleté, montrant mes bonichons.
Attends une seconde. Parmi ceux à qui tu plairais, il y en a des bien moches.
Tu les accepteras aussi, ma duchesse? Justement. Même avec eux, faudra que je m'y mette.
Ce salopard de Joe y veillera, j'en suis sûre.
C'est ça qui est emballant. Serais-je capable de leur donner satisfaction?
À eux, certainement.
Mais à toi, il risque d'y avoir les pugnances. Ah, faut pas, monsieur, car ce métier, c'est un sacerdoce.
Tout de suite les grands mots.
Je ne comprends pas le plaisir que tu peux éprouver à coucher avec des mecs vilains ou disgracieux. Je peux t'expliquer? Si le cul c'est laid et qu'il peut me prendre malgré tout, moi qui suis si pelle, il va ressentir un puissant désir et une fervente admiration. Et c'est justement cela que je recherche, être admiré et désiré grâce au contraste. La belle et la bête, quoi.
Ouais, le succès, ça vient. Et tu l'auras forcément avec ton physique.
Pas de surprise. C'est pourquoi le succès ne me suffit pas. Il me faut aussi l'admiration qui est si gratifiante, car elle me permettra de fidéliser les clients. Avez-vous été satisfait de mes services, que je leur dirai après la passe? Si vous voulez, on recommence un autre jour, non? Et je préciserai, c'est facile de me trouver. Je suis là tous les samedis et vendredis. Jamais le dimanche, car c'est le jour du Seigneur. Mais je peux vous laisser aussi mon numéro de téléphone.
Parmi les clients, il peut y en avoir des méchants. T'as pas peur?
Pas vraiment, car c'est une excitation trépidante, même s'il y a un peu d'appréhension. Un bon coup d'adrénaline. Les ficelards, j'en ai connu autrefois. Je sais comment les manier. J'ai prévu des trucs pour prendre le leadership de la situation.
Ah oui, c'est quoi ces trucs?
Et Marie-Jo expliqua à son mari les procédés et autres surprises qu'elle avait imaginées et qu'elle tirait à l'évidence de sa vie agitée passée. En effet, à ceux de ses clients qui seraient des allumés, en particulier à ceux qui, séduits par le bombage de ses formes, entendraient lui infliger les divers sévices dont elle était autrefois friande, elle avait préparé de subtils scénarios destinés à en alléger la brutalité. Par exemple, la scène du tire-bouchon, ou celle de la girandole, ou du colimaçon, ou de la majone, ou de la brouette du jardinier arroseur. Mahoud s'attendait à de telles truculentes excentricités. Il s'en amusa, s'en moqua, finit par les déguster, puis, se penchant vers sa digne épouse, lui en chuchota d'autres encore plus corchés. La partition de l'élargissement préalable des fesses au godelureau, ou celle du fignolage prolongé sur le thème « Par passant moi, chérie, tu connais pas la route !» ou encore celle du « coitus interruptus en pleine poire !» Bref, tout un tas de vicelardises mitonnées aux petits oignons qui fit penser à Marie-Jo que Khalil, en somme, aurait été le client idéal et que c'était dommage qui n'ait pas davantage mis en pratique sa fertile imagination. Elle alla même jusqu'à penser qu'elle pourrait peut-être lui suggérer de venir la chôter à l'hôtel de la tortue. « Mais non, se dit-elle finalement, taisons-nous et laissons-le prendre l'initiative. » Elle se persuada, néanmoins, de l'amener subrepticement vers cette issue des plus tordues.
« Ça fait quand même un bout de temps qu'il ne m'a plus honoré. Ce serait une bonne occasion de pimenter nos affaires et de recommencer nos anciennes parties de chambre en l'air. Il viendrait à l'hôtel et me paierait sans dire un mot, ni moi non plus. Et moi, je me mettrais un paillon sur la bouche. Oh, ce serait exaltant !»
Ayant obtenu le feu vert de son mari, Marie-Josette Liégeois vint se présenter un soir à Toulon, à Joe, qui la mit aussi sec sur le trottoir. Parmi les gourgandines qui y tapinaient, il y en avait une avec laquelle elle avait sympathisé. Une certaine Patricia Andressa Benatar, d'origine brésilienne. Avec Marie-Jo, c'était la plus sexy de la bande, ce pourquoi elle était beaucoup sollicitée et montait souvent en chambre. C'était une fille qui aimait rigoler et semblait rechercher des sensations fortes.
« Dis donc, hé, ma poule, ça te dirait pas d'accompagner des messieurs en voiture jusqu'à Toulouse, aller et retour ?»« Toulon, Toulouse, c'est long comme voyage. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec des messieurs ?»« Rien du tout, juste accompagner. »« Sans coucher ? Pas besoin, mais c'est pas exclu. »« Oh, ça ne m'intéresse pas si on ne couche pas. » T'es vraiment une obsédée de première, toi, hein? T'as pas envie de changer tes habitudes pour une fois? Je ne vois pas l'intérêt de faire 5 heures de route à l'aller et 5 au retour, juste assise à l'arrière d'une caisse. Et d'abord, pourquoi les accompagner? Les conducteurs ont besoin de filles dans la voiture, car on évite plus facilement les contrôles de police quand on aperçoit un groupe des jeunes en goguette. Et qu'est-ce qu'il a caché? Ça, je peux pas te dire. Mais tu vois qu'il y a du ténébreux derrière, ce qui peut t'amuser et t'intéresser. Seulement si on me donne les clés du mystère.
Patricia Benatar ne voulut pas en dire plus. Mais le lendemain, elle relança sa proposition en des termes plus clairs.
« Puisque tu veux tout savoir, je vais te mettre au parfum. À la bonne heure. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de travailler pour les flics ?»«
Jamais. Je ne vois pas pourquoi je l'aurais fait.
Bon, tant mieux pour toi. Moi, ça m'arrive. C'est même pour ça que je tapine. » Si je suis un tic, c'est pas parce qu'ils me tiennent et qu'ils me font chanter. Non, non. C'est seulement parce que je veux infiltrer les gangsters qui ont tué un membre de ma famille. C'était il y a longtemps.
Tu veux te venger?
Exact. Mais je commence à être trop repéré, tandis que toi, ma poule, t'es blanche comme une colombe. Et donc, tout peut servir des chèvres.
Comment?
Disons des témoins.
Je ne percute rien à ton histoire.
Entrons dans les détails. La police a dans les fisseurs un certain Abdul Wafat qu'elle soupçonnait d'incendie criminel. Les Abdul en question fricotent avec les milieux toulonnais et marseillais. Il a un pote qui s'appelle Walid et qui travaille avec lui. On les a mis sur écoute et on sait que la semaine prochaine, ils doivent faire une petite virée et chercher 2 ou 3 accompagnatrices. Je connais une fille de la famille d'Abdul. elle m'a fait venir de temps en temps pour amuser Walid. Et tu l'as amusé? Bien sûr. Mais il m'a dit qu'il voulait du neuf. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Donc les neufs, ça pourrait être toi. Tu me remplacerais en somme. De toute façon, je suis un peu trop bronzée, trop voyante pour une promenade en auto. Mieux vaut une fille qui passe plus inaperçue. Et tu crois que je pourrais faire l'affaire? Tu sauras certainement prendre un style discret, passer muraille. Foulard et lunettes. Tu aimes te déguiser. Je te vois à l'œuvre. Et si Walid te demande, tu n'auras plus qu'à t'exécuter pour agrémenter les voyages. Pas de problème, puisque c'est ce que tu cherches. Pas de problème, mais le but dans tout ça. T'as bien saisi qu'il s'agit d'alpaguer ces deux voyous. Donc maintenant, les 10 heures de route t'apparaissent plus pigmentées, vu qu'au cours de la promenade, il n'est pas exclu que tu passes à la casserole avec Walid ou même avec Abdul. Pêcher avec un voyou, ça peut t'intéresser, non? Ton histoire prend meilleure tournure. Et tu le connais bien, cet Abdul? Ouais, je le connais des lèvres et des dents. Et alors? C'est pas ton genre.
J'ai pas de genre.
Mais si, Marie-Jo. Tu crois que je t'ai pas entendu dans ta chambre en train de gueuler avec certaines brutes qui te font des misères parce que tu les leur proposes?
T'as entendu?
Oui, tout entendu. Tu sais, chalepoute, tout se sait. En tout cas, Abdul, c'est pas le style. Il est tout doucereux et mielleux, car il garde en réserve sa brutalité pour ses activités criminelles.
À moins que quoi?
À moins qu'il lui suggère moi-même.
Suggère quoi?
De t'appliquer la méthode est forte, ma belle.
Non, je m'entends pas, car les voyous, ils sont imprévisibles et moi, j'aime les choses bien cadrées.
Oh, moi, il disait ça pour t'égayer ton voyage. Tu verras comment il est, si tu te décides d'y aller.
Patricia le décrivit. C'était un barbu qui avait l'air affable en surface, précisa-t-elle. Mais dès qu'on l'auscultait dans le blanc des yeux, derrière ses sourcils broussailleux, on discernait une expression pas joyeuse et surtout un regard glaçant qui te jaugeait en moins d'une seconde et qui ne cherchait nullement l'approbation de ses interlocuteurs. Au contraire même, développa-t-elle. C'était clair qu'Abdul n'appréciait pas les effluves sucrées de la sympathie ou de la convivialité. C'était pour lui un mauvais signe. Le signe qu'il allait se laisser distraire de son inexorable objectif. « Je te signale qu'il fait l'amour comme s'il prenait un médicament. » Pas le moindre mot, ni le moindre cri, silence radio sur toute la ligne. Son médecin a dû lui recommander de faire ça régulièrement car c'est bon pour la santé. Oh, quoique non, un type comme lui n'a pas de médecin. Ricana Patricia. Elle raconta à Marie-Jo comment ça s'était passé après. Dis donc, l'ami, après cette récréation, on pourrait peut-être causer. T'as presque pas dit un mot jusque-là. Qu'elle lui avait lancé un peu pour se moquer. Et voilà que, après un silence pesant, il lui avait répondu « Ne nous laissons pas encombrer de détails, poupée. Mieux vaut aller droit au but. Ah, toi, tu sais parler aux femmes. Avec moi, faut éviter les futilités. » À l'évidence, le terme « futilité » avait été choisi à dessein par Abdul Wafat, et Patricia Benatar avait parfaitement compris qu'il venait de lui signifier que c'était pas parce qu'il était taiseux qu'il était dépourvu de vocabulaire ou d'éducation. Tout simplement, il ne voulait pas se laisser embringuer dans l'effervescence des conversations. Autrement dit, son mutisme n'était pas innocent ou insuffisant. Il était volontaire, tout le reste étant ravalé par lui au rang de pure frivolité féminine. C'est qu'il ne voulait pas se laisser influencer par les femmes. Il y avait là quelque chose d'un peu viriliste ou masculiniste, comme diraient les mauvaises langues. Tout ce tableau plutôt défavorable, loin de faire fuir Marie-Jo, eut pour effet de la motiver. Aiguisée par ses futures épreuves, enflammée par l'objectif d'infiltrer les gangsters, la Liégeoise ne résista pas à la tentation et, finalement, accepta l'aventure. Quand elle se pointa, elle se présenta sous le nom de Sarah Bachary, ce qui faisait moins français et serait sans doute plus facilement accepté par la bande, même si Sarah était un prénom commun aux trois religions du livre. Elle avait suivi les conseils de Patricia Benatar en adoptant un style vestimentaire discret. Et elle avait pris soin en arrivant de serrer la main de tout le monde pour avoir leur trace ADN en souvenir. Ça pourrait toujours servir. La copine de la famille Wafat, une certaine Sonia, était déjà assise dans la voiture, prête pour ce périple. Une fois que le conducteur se fut engagé sur l'autoroute, il donna des instructions. « Éteignez vos portables, les filles !»«
C'est clair, on ne part pas pour une promenade de santé !»
se dit Marie-Jo et elle éteignit son téléphone. Ce qu'elle ignorait, c'est que la Fiat 500 était déjà géolocalisée par la police, de sorte qu'il était inutile de prendre la précaution d'éteindre les téléphones mobiles. Walid conduisait le véhicule.
« Pourquoi on roule pas plus vite ?»
demanda la fauche Sarah naïvement.
« L'autoroute est vide à cette heure de la nuit. »
« Walid n'a pas le permis. »
précisa Sonia.
« Donc il fait gaffe à éviter tout contrôle. »
L'application Waze de la Fiat 500 guidait Walid vers sa destination et affichait le nombre de kilomètres restant à parcourir. Il avait opté pour une musique de rap qui résonnait à plein tube dans l'habitacle.
Il va falloir se taper cette triste musique pendant tout le voyage,
se dit Marie-Jo.
« Vous auriez pas quelque chose de plus gai ?»
s'enquit-elle timidement. « Si, 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 on a !» répondit Abdul placidement. Et il mit de la danse orientale égyptienne. Puis des chansons de Férouge tirées du festival de Beit Edin.
« Ah, c'est plus classe !»
proclama Sonia.
« Chic, en voilà une qui s'est rangée de mon côté. Tant mieux !»«
Mais donc, Chou Hayyam, c'est plus dansant !» demanda Walid. Et les trois se mirent à scander la mélodie en tapant des pieds suivant le tempo, en applaudissant des mains suivant la mesure et en se bougeant des hanches en cadence. Même Walid, qui conduisait, abandonna un instant le volant pour frapper en rythme ses mains bien en l'air. Ce qu'il put faire grâce au régulateur de vitesse.
pliants, ça a l'air festif. Ça vaut mieux pour les percer à jour. Ils seront moins vigilants. J'ai bien fait de faire mettre du Feyrouz.
Au fur et à mesure qu'on entrait dans le cœur de la nuit, la musique s'adoucissait vers du blues oriental. Enfin, après de longues heures, la Fiat 500 parvint non loin de sa destination et sortit de l'autoroute. Mary Jo jeta un coup d'œil sur sa montre. 2h30 du matin. La voiture s'arrêta en rase campagne, à côté d'un bosquet. Abdul en sortit et dit à Walid « Tu m'attends là jusqu'à ce que je revienne. Ça ne sera pas long, mais quand même pas quelques minutes seulement. » Là-dessus, il prit dans le coffre un bidon d'essence, le mit dans un sac qu'il se fixa sur le dos et partit en tenant une paire de gants et une cagoule. Il se dirigea vers le petit bois qu'il traversa, suivi des yeux par les autres passagers. Puis marcha sur une clairière déserte. Après quoi, on le perdit de vue. Mary Jo se demandait donc ce qui allait se passer.
Vous venez d'entendre la troisième partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Rendez-vous vendredi prochain pour la suite de ce récit. Histoire à la loupe.
Vous venez d'entendre « Il était une fois » dirigé par Patrick Simon, émission préenregistrée le 7 mai 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 8 mai, de 19h30 à 21h et réalisée par Claudia et Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.